Le même raisonnement demeure, à l'évidence, valide, quel que soit le pays de l'indigène, quelle que soit la provenance du voyageur, quel que soit le nom des mers que colore très brièvement son sang. Mais l'occasion ne se présente, hélas, qu'une seule fois. Quand le mal est fait, il devient immédiatement incurable, et il ne reste plus qu'à l'endurer, stoïquement. Comme j'ai toujours pris soin de le préciser, à chaque fois, ou presque. On ne peut donc en aucun cas m'accuser d'avoir fait, auprès de ma famille, l'apologie de l'assassinat systématique du premier voyageur, puisqu'un tel acte, certes contestable, d'un point de vue strictement moral, me semble qui plus est, et en l'absence d'une machine à remonter le temps en état de marche, parfaitement inutile. On ne peut, par conséquent, absolument pas considérer que j'ai influencé à un degré quelconque mon imbécile de petit cousin Alexandre. Comme m'en accuse pourtant avec insistance ma cousine Catalina, sa mère. Depuis cette nuit où il n'a rien trouvé de mieux à faire, oh je ne sais quelle histoire de bouteille de vin introduite illicitement dans son restaurant quelques jours plus tôt que de poignarder Alban Genevet, un étudiant en médecine dont les riches parents possèdent depuis des années une résidence secondaire tout près de la plage et qu'il connaît donc depuis l'enfance, et de le poignarder en pleine rue, sur le port, devant une foule attentive de témoins avinés regroupés sur les quais, aux terrasses des bars et sur les ponts des grands yachts, avant de prendre piteusement la fuite en laissant sa victime inconsciente sur les pavés, tandis que luisait dans la nuit la constellation bleutée des écrans de téléphone filmant la scène. Je connais la propension irrésistible de l'âme humaine à trouver un responsable au malheur qui l'accable. Et si je peux tout à fait la comprendre, ce n'est pas au point cependant de tenir, sans protester, le rôle du bouc émissaire, surtout quand mon accusatrice serait à l'évidence mieux avisée de diriger ses regards soupçonneux vers sa propre personne. À ma connaissance, et je ne me suis pas privé de le lui faire savoir sans la moindre ambiguïté, c'est bien elle qui a décidé, il y a maintenant 24 ans, de coucher avec Philippe Romani, douloureuse aberration dont je m'efforçais alors de penser qu'elle était due à un moment d'égarement abominable mais passager, et c'est elle encore qui, pour des raisons dépassant aujourd'hui encore mon faible entendement, a décidé de garder le fruit de leur sordide et insignifiante copulation, et de le porter jusqu'à complète maturation pour offrir au monde un Romani supplémentaire, c'est-à-dire, comme on pouvait le prévoir dès sa conception, un parasite alangui, violent et oisif, un être irresponsable, charmeur et dénué de tout scrupule, comme le furent en vertu non de l'hérédité, mais d'une solide culture familiale consistant en l'absence totale de principes éducatifs élémentaires, alliés à un colossal sentiment de supériorité, tous ses ancêtres. À commencer par le repère, Philippe, ce que j'étais bien placé pour savoir puisqu'il était depuis toujours mon meilleur ami, tant il est vrai que nous ne choisissons pas plus nos amis que notre famille. Oh, te souviens-tu des soirs d'été, quand nous passions te chercher après le dîner, tes parents assis à la table de la cuisine buvant leur café sous un sombre tourbillon d'insectes nocturnes pris dans l'orbite erratique de l'unique ampoule dénudée qui pendait du plafond, nous signalant que tu prenais encore ta douche avant de nous inviter à nous asseoir, ce que Philippe ne faisait jamais. Il ne prenait pas même la peine de décliner l'invitation et restait debout, son grand corps oscillant dans la pièce minuscule, le regard fixé sur la porte de la salle de bain d'où nous parvenaient des bruits de soyeux clapotis et de frottements, et il se jetait brutalement contre la porte, arrachant à chaque fois un petit cri de surprise, et il se mettait à mugir d'une voix lubrique et plaintive, « Catalio, Catalie, mais tu es nu là-dedans, je le sais, je le sens, ouvre-moi, ne me laisse pas mourir ici, je deviens fou, je te veux !» griffant la porte, l'alléchant parfois, en haletant comme une bête, puis se laissant tomber à genoux, les mains accrochées à la poignée branlante, comme finalement terrassé par la puissance de son désir, et pendant tout le temps que duraient ses pitreries, alors qu'il était devenu impossible de ne pas imaginer ton ondoyante et mystérieuse nudité, à peine voilée par des volutes de vapeur presque transparentes, tressaillir derrière la porte close. Je t'entendais rire aux éclats, d'un grand rire ingénu et contagieux, si bien que ton père et ta mère, mes déplorables oncles et tantes, se mettaient à rire aussi, encourageant Philippe à poursuivre son numéro sans jamais lui dire, sans même jamais concevoir combien tout cela était incroyablement